réponse attendue à dernière nouvelle. L'Insider Hockey. Aux quatre coins de la ligue, tout le monde lui parle. Puis il fait parler tout le monde.
The one, the only.
L'Insider Hockey. Renaud Lavoie.
Salut Renaud.
Yep. Comment ça va ce matin?
Ouais, très bien. Juste avant qu'on se lance dans le sujet, on a le complément d'information. Il s'agit de Per Bjorkman, un journaliste suédois basé à New York qui a donné un vote de troisième place pour le Norris à Lane Hudson. Alors, on salue M. Bjorkman.
Oui, moi, j'avais voté pour Victor Hedman au troisième rang. Quatrième, j'avais mis Lane Hudson.
Tu te rends jusqu'à combien, mettons? De 1 à 4?
1 à 5.
1 à 5, ouais. 1 à 5, exact. Donc, Victor Hedman avait connu, lui aussi, je pense, une bonne saison. Lane, on en a parlé souvent ensemble pendant la saison.
Ben oui.
On se posait la question, est-ce qu'il pouvait être un candidat? Est-ce qu'il pouvait le remporter, le trophée Norris? Candidat, ça va venir de soi dans sa carrière. Le remporter, moi, personnellement, je pense que oui. Je pense que ça va même arriver plus qu'une fois dans son cas. Mais... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Est-ce que le Canadien, par exemple, hier, je pense que la question sur YouTube de BPM Sports, c'était est-ce que le Canadien gagne la Coupe cette année avec lui comme défenseur numéro 1 ou il doit être un défenseur numéro 2 pour que les Canadiens gagnent la Coupe? Je pense que cette question-là mérite quand même une très, très bonne attention. Parce que Lane n'est pas nécessairement le défenseur le plus grand et le plus gros. Mm-hmm. Et ça, bien, en séries éliminatoires, je le vois quotidiennement. Est-ce qu'il y a des équipes qui gagnent la Coupe cette année avec des défenseurs en bas de 6 pieds? C'est l'autre question.
C'est que moi, je pense que dans la vie, tu peux pas avoir tout le même prototype. J'ai pas de problème à avoir
c'est
un
ça.
Lane Hudson, mais du moment que t'en as trois, t'as un problème. C'est juste ça. C'est qui... Puis c'est vrai, là, Vegas, quand ils ont gagné leur coupe, il n'y avait pas un défenseur qui faisait en bas de 6 pieds. C'est une réelle... Ça fait partie de la game là, d'avoir des gros bonhommes.
Piqué Souban a également donné son vote de quatrième place à Lane Hudson. J'ai l'affiche devant moi. Et justement, Renaud, j'ai une question. Quand vous votez pour ça, là, mettons, toi, tu te mets dans quel état d'esprit personnellement? Tu t'assois-tu avec une petite coupe de vin puis tu fais des calculs ou c'est vraiment au feeling de ce que tu as vu puis tu le sais, top of your head? Là?
Ce que j'ai vu, c'est important. Deux, il y a des gens dans la Ligue nationale qui travaillent pour des équipes avec qui j'ai beaucoup, beaucoup d'affinités, donc à qui je pose des questions. Puis, moi, j'ai eu un très, très gros problème et je ne suis pas le seul à avoir vu Sacha Barkov remporter le trophée Selke. Il n'y a eu aucun de mes 5 votes. On est à peu près 17 à ne pas avoir, 18 à ne pas lui avoir donné de vote à Sacha Barkov. Aucun. Il y a Félix Séguin de TVA Sport et moi, on ne s'est jamais parlé. On n'a jamais communiqué ensemble pour savoir pour qui on allait voter. Il y a Steve Simmons, je pense aussi, du Toronto Sun. Quand je l'ai vu en deuxième ronde, on a vu que on venait de sortir la liste des gagnants du Selke.
Ouais.
Et il y a Sacha Barkov. Je ne parle pas à Steve Simmons, sauf quand je le vois à Toronto. Et la première chose qu'on s'est dit les deux, c'est ça n'a pas de bon sens que Sacha Barkov soit candidat. Puis on s'est regardé, là, il m'a dit ça, j'ai dit, t'as pas voté pour lui non plus. Il dit pas en tout. Il dit, en faisant mes recherches, en parlant un peu de tout le monde, c'est sa pire saison probablement dans la Ligue nationale. Si c'est pas dans la pire, ça fait très longtemps. Mais j'ai dit, j'ai les mêmes informations. Puis ce que j'ai vu, moi, de mes yeux vus, c'est pas ni beau par rapport à ce que Sacha Barkov nous donnait d'habitude, par exemple. C'est pas à niveau à ce qu'on voit en série depuis le début des séries, c'est exceptionnel. Mais, je veux dire, c'est pas la saison qu'il y a eu. Puis, il gagne. Ça, les gars, permettez-moi de vous dire que celle-là, je la comprends pas. Je comprends pas. C'est un vote de quoi? De popularité?
C'est ça ma question sur l'état d'esprit, dans la mesure où, tu sais, mettons, la quatrième place et la cinquième place, est-ce qu'elle est prise au sérieux ou c'est plus un je l'aime bien? Je vais te donner un exemple. Joe Haggerty du Boston Hockey Now. 1, Makar. 2, Werenski. 3, Rasmus Dahlin. 4, Hedman. 5, Quinn Hughes.
Ouais, mais tu sais, Rasmus a connu une bonne saison aussi.
Je veux pas rien.
Mais oui, là, tu peux avoir une certaine forme de chauvinisme. Faut que tu fasses aussi attention. Il faut que tu connaisses énormément, faut que tu sois au moins au fait et avoir des bons contacts. OK, dans l'Ouest, il se passe quoi? Là, les Kings de Los Angeles. Moi, NZ Kopitar, ça a été mon choix de première place pour le Selkie. J'ai vu NZ jouer. J'ai adoré sa saison. Mm. J'ai adoré ce qu'il a fait avec cette équipe-là. Il n'y a même pas d'un trois candidats. Qu'est-ce que je veux te dire? On a, ça, je pense que le Selkie, cette année, c'était très, très, très difficile d'en départager un puis d'arriver avec voici qui devrait absolument le gagner. Maintenant, oui, il faut que tu prennes ça au sérieux. Moi, il y a des trophées année après année qui sont plus difficiles que d'autres à donner.
C'est sûr.
Moi, je me souviens très bien une fois, il y a dans une saison où Connor McDavid là, allait tout rafler. Là, c'est à peu près il y a 6 ans de ça. On savait que ça allait être, admettons, son premier MVP, son premier trophée Hart. Je veux dire, la ligne directrice, elle était simple. Mettons, c'était facile d'aller chercher le deuxième, troisième. Rendu au cinquième joueur par excellence de la ligue, là, j'avais beaucoup, beaucoup trop de difficultés. Puis là, je me suis mis à faire des appels à gauche, pas à droite. Puis j'avais parlé à Chris Letang. Puis Chris, je lui ai dit, Chris, moi, je regarde, Tristan Jarry avait une moyenne, je pense, de 2,20, 2,30. On va mettre à 2,40, là. Il y avait, puis je regardais beaucoup les matchs des Pingouins. J'ai dit, Chris, j'ai une question. Sans Tristan Jarry, faites-vous les séries cette année? Il dit, impossible, on fait pas les séries cette année. Il y avait beaucoup de blessés. Puis Tristan avait été exceptionnel. J'ai dit, donc, t'es sûr, vous faites pas les séries sans Tristan? On fait pas les séries sans Tristan Jarry. Ça avait été mon cinquième vote, puis je sais que ça avait causé une certaine commotion, parce qu'évidemment, j'étais le seul à avoir voté pour lui. Mais encore aujourd'hui, pour moi, un joueur par excellence dans son équipe, c'est celui qui amène son équipe à un autre niveau.
Ah oui.
C'est celui qui est capable de permettre à son équipe de se rendre très loin en série. Tu sais même que dans le narratif des Jets de Winnipeg présentement, parce que là, on va connaître le trophée Hart ce soir, dans le narratif des Jets de Winnipeg et de l'analyse de bien des équipes par rapport aux Jets, c'est si Connor Hellebuyck n'est pas là, ils ne font pas les séries. La barouette. Ils ont fini au premier rang.
Ouais, c'est ça.
Là, tu te dis, OK, il faut que tu en prennes, tu en laisses, là. Mais c'est incroyable ce que fait Connor Hellebuyck en saison régulière. Je pense qu'il y a 42 buts sauvés, là. C'est volé, là. Statistiquement parlant, ça se prouve, là. Pensez-y, là. C'est des statistiques qui sont exceptionnelles. Il a connu une saison, malheureusement, une saison exceptionnelle, oui, malheureusement, un peu moins.
OK, Renaud, j'ai une question, puis je trouve ça intéressant parce que tu l'as abordé alors que je voulais te la poser. Ton vote de Tristan Jarry, ou peu importe, tu sais, mettons, pour le Norris, ouais. Tu as déjà eu une émission avec Chris Letang dans le temps à TVA, tu donnes un vote de troisième place. Tu peux-tu recevoir un téléphone de quelqu'un de la Ligue nationale de hockey puis te dire « Hey, t'as pas l'air de prendre ça au sérieux, on va t'enlever ton droit de vote pour les prochaines années. » Comment ça fonctionne? Y a-t-il une rotation de quel journaliste vote puis tout ça, comment ça marche?
Tous les journalistes qui s'enregistrent à, on va l'appeler la Fédération des journalistes de la Ligue nationale, j'ai pas le titre exact, là, doivent payer un certain montant d'argent par année pour y faire partie. Puis, à partir de ce moment-là, tu as un vote automatique. Okay? Moi, je ne fais pas partie de cette fédération-là parce que je ne suis pas un journaliste écrit. Et ce qu'on fait, c'est qu'on invite, donc, j'imagine, je vais dire un nombre, 20, 30 journalistes ou animateurs de télévision ou descripteurs de télévision ou analystes qui font la Ligue nationale de hockey. Puis moi, depuis à peu près, je veux dire, peut-être 10 ans, on m'a demandé de faire partie de cette liste-là aussi. Un gars comme Elliot Friedman en fait partie. Donc, il y en a d'autres, évidemment, qui se retrouvent à avoir un vote. C'est certain que, je veux pas dire que moi, je dois prendre ça plus au sérieux. Ça n'a aucun rapport. Là. C'est pas meilleur qu'un autre ou moins bon. Mais moi, je suis un votant invité. Tu comprends?
Okay.
Je l'ai pas. Si j'arrive avec des niaiseries, comme tu dis, Anthony, là, mettons que c'est le festival de la niaiserie, là, je prends pas ça au sérieux. C'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui va faire « Hey, désolé, là, mais lui, ça marche pas. Là, il met n'importe quoi. Il ridicule, il prend pas ça au sérieux. Ça fait en sorte qu'on se fait ridiculiser. » Oui, à partir de ce moment-là, tu peux te faire sortir. Mais tu vois, Tristan Jarry, ça passe au conseil, finalement.
Ouais. OK. Intéressant.
Parlant de gardien de but, parce qu'il faut en parler, ouais. On ne sait pas encore qui va être devant le filet ce soir pour les Oilers, mais Skinner, les stats sont en sa faveur.
Hey, c'est écœurant. Honnêtement, c'est de toute beauté. Moi, j'adore. J'aime les stats, pas au point d'en faire une maladie, mais il y en a des fois que tu dis comment est-ce possible. OK. Match 1 à 3, Stuart Skinner. OK. 7 victoires, 14 défaites en carrière en série. 3,45 la moyenne. 870 le pourcentage d'arrêt. On commence le match numéro 4 d'une série. 14 victoires, 1 défaite. Moyenne de 1,39. Pourcentage d'arrêt de 942.
C'est tellement ridicule. On dirait que c'est deux gars, genre.
C'est ça. On dirait que c'est deux gardiens. Sa seule défaite, rappelez-vous, match numéro 7 l'an dernier à, en Floride 7? Contre les Panthers. Oui.
Tu viens de me dire les matchs numéro 4, là.
4 à 7.
Ah, 4 à 7. Excuse-moi, je pensais que tu parlais juste des matchs numéro 4.
J'ai dit à partir du match numéro 4.
OK, je comprends.
Donc, 4 à 7, c'était sa seule défaite l'an dernier. 14 victoires, une défaite dans les matchs 4 à 7. C'est hallucinant de voir ça. Moi, comme vous avez si bien dit, c'est comme si on avait deux gardiens différents. C'est sûr que Stuart Skinner s'en va devant le filet, à moins qu'il y ait un ennui physique quelconque qui fait en sorte qu'on se dise « OK, là, ceci explique cela. Ouais. » Mais c'est sûr qu'il va devoir rebondir puis trouver une façon de sauver un match. Et parce qu'il en sauve des matchs, il est capable d'amener son équipe à un autre niveau. Dans ses statistiques, à partir du match numéro 4 d'une série, il y a quand même 3 jeux blancs dans les 15 matchs qu'il a disputés. C'est une bonne moyenne, c'est un match sur 5. Et c'est là où les Oilers vont sûrement être en mesure de prendre leur air d'aller. S'ils veulent revenir, ben pas revenir parce qu'ils sont pas sortis de la série, mais s'ils veulent la gagner, faut que ça commence avec Stuart Skinner. Il faut que ça soit lui le meilleur joueur de cette équipe-là. Si c'est le Stuart qu'on vient de voir depuis même, je dirais, le début de la série, oubliez ça, c'est impossible que cette équipe-là gagne la Coupe Stanley.
Puis l'histoire des menaces de mort envers sa femme et ses enfants, puis tout, tu sais, on en a parlé avec Doug Guimond tantôt. C'est la finale de la Coupe Stanley. T'sais, de bloquer des choses comme athlète professionnel, c'est une chose. De te faire dire que t'es un sans-dessin sur Instagram, c'est quelque chose. Mais quand ta famille, ouais, tes enfants reçoivent des menaces de mort, est-ce que c'est le genre de gars que ça peut affecter?
Je pense que oui. Stuart, c'est un être humain d'une très, très grande qualité. C'est quelqu'un de toujours disponible pour les membres des médias. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, mais il a aussi ses émotions sur la main. Tu comprends?
Oui.
Et c'est un gars qui sait qu'il n'aide pas toujours ses coéquipiers, qu'il doit rebondir, qu'il doit aller chercher très loin pour ramener des performances à niveau, comme on a vu, on va dire, face aux Stars de Dallas, qui est excellent. Mais ça reste que c'est aussi un gars qui est capable de prendre beaucoup de choses personnellement. Je pense que ça va être toute une bataille mentale pour lui. C'est pas une bataille physique. Même s'il y a des problèmes, je trouve, de la façon dont il se comporte devant son filet, je pense qu'il est assez intelligent et assez un bon gardien pour les régler rapidement. Mais ça va être une bataille mentale. C'est mentalement que ça se passe. Puis c'est sûr que quand tu te retrouves dans une situation où toi, te faire menacer, je veux dire, tu entends ça sur la glace tout le temps d'une manière ou d'une autre, ça change absolument rien à ta journée. Mais quand ce sont les membres de ta famille qui sont menacés, c'est une autre game complètement. Et à partir de ce moment-là, le hockey tombe secondaire, que ce soit un joueur des Oilers, que ce soit un joueur des Panthers.
Totalement.
C'est à partir de ce moment-là que les choses peuvent changer rapidement.
Renaud, bon match ce soir. On se reparle demain, même heure.
Même heure. Salut, club. Bonne journée.
Salut, Renaud.